Aujourd'hui, eh bien, la transfiguration nous oblige, enfin nous propose, l'Église nous propose de contempler un peu la lumière des cieux. Saint Paul, dans sa première épître, là, qui est très vivifiante du point de vue spirituel, dénonce ceux qui sont de ce monde. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Alors ici, ce n'est pas la croix au sens de souffrance, au sens du chemin de croix. C'est la croix globalement, au sens de rédemption. Cette rédemption accomplie par la croix, par la passion du Christ et sa résurrection, eh bien, beaucoup s'en fichent complètement, sont indifférents, et même ennemis parce qu'ils se conduisent selon une morale qui n'est pas compatible. Nous connaissons bien cette situation. C'est la nôtre et saint Paul nous rejoint vraiment totalement. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors voilà ce que nous devons combattre, en particulier pendant ce carême, pendant toute l'année, mais en particulier lors de cet effort annuel où on met un peu l'accent sur la prière, sur la pénitence, sur l'entraide. Dieu est leur ventre. Ben, il faut faire le contraire. Leur Dieu, pardon, c'est leur ventre. Nous, on doit mettre Dieu, notre Dieu, ça doit être du côté de notre âme. Et c'est ainsi qu'il dit, nous avons notre citoyenneté dans les cieux. C'est de cela dont nous devons faire mémoire, notre citoyenneté céleste. On passe tout notre temps sur 24 heures, vous le savez bien, à nous occuper d'affaires humaines, de relations, de choses matérielles, etc., etc. Le carême, ça nous demande de faire un effort par rapport à ça. Vous voyez, c'est tourner notre regard vers le ciel. Alors, jeûner, eh bien, il y a plusieurs manières de jeûner, bien sûr, il y a la nourriture, mais il n'y a pas que ça. On peut diminuer le flux de nos affaires, de nos transactions, de nos shoppings, pour se limiter à l'essentiel, à quelque chose de plus austère, qui gère le nécessaire, mais pendant ce carême, eh bien, on renonce aux articles un peu plus luxueux, un peu plus inutiles, qui peuvent avoir de l'attraction sur nous. On les commandera plus tard, après le carême. Le carême, comme ça, ben voilà un jeûne facile et qui permet, eh bien, de se recentrer. Ça nous aide à nous recentrer dans la prière, parce que ça doit être vraiment un moment de prière, le carême. Pas simplement le matin, le soir, je veux dire, toute la journée, on doit, non pas être en prière dans une église, mais penser, tourner notre regard vers les cieux, car nous sommes citoyens de ces cieux, et il faut les contempler pour nous en souvenir, sinon notre Dieu sera notre ventre. C'est une période donc austère, c'est vrai, le carême c'est austère, mais en même temps, c'est plein de joie parce que quand on est en présence de Dieu, le propre de cette présence, c'est de nous mettre dans la paix, dans la joie, dans une incroyable liberté intérieure et extérieure, si on peut, mais en tout cas intérieure déjà. On prend de la hauteur. Donc ça n'est austère que pour les regards extérieurs. Pour celui qui vit le carême, sauf s'il y a de gros péchés à racheter, évidemment. Mais pour celui qui vit le carême, c'est une période de joie, au contraire. Vous voyez Jean-Baptiste qui vivait au désert. Eh bien, lui, d'une manière très austère, il était tout dans la joie de voir enfin l'époux arriver. Et il le crie, il crie sa joie. Il est l'ami de l'époux et sa joie, c'est vraiment de voir l'époux prendre son épouse, c'est-à-dire l'Église, les âmes, opérer sa rédemption. Que la croix soit accueillie. La croix, c'est évidemment la destination du carême. Il faut donc regarder dans cette direction-là. C'est la direction vers laquelle nous marchons. Nous marchons vers ce Golgotha pour contempler la merveille des merveilles, c'est-à-dire cet amour inimaginable que Dieu a eu pour nous et a pour nous continuellement. Dans l'éternité, il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Tout est un éternel, un continuel présent. Sa passion, sa main tendue vers nous, elle est constante, heureusement pour nous. La transfiguration. Dieu, évidemment, il est invisible, souvent même insensible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas le sentir. On a beau prier, mais on ne sent pas grand-chose. On est dans la sécheresse. Je l'appelle le Dieu de la foi. C'est celui qui nous fait vivre, incontestablement. Mais parfois, ce Dieu de la foi, de notre foi, devient lumière. Et c'est l'épisode de la Transfiguration, nous explique ça. Il nous dit Jésus, comme les disciples contemplaient normalement, il voyait rien de spécial, c'était un homme apparemment comme les autres, et en prière, il était tout autre. C'est sa vie intérieure. Elle est pure lumière. La lumière, ça désigne le royaume des cieux, ça désigne Dieu lui-même. La lumière, on le représente par la lumière. Et il nous arrive d'avoir dans la prière ou dans la méditation, c'est pareil, méditation, prier, c'est une seule et même chose, une prise de conscience de la divinité, plus que d'ordinaire. Ce que veut dire la divinité, plus que ce que veut dire intellectuellement, mais le sentir, le pressentir en tout cas. La divinité, c'est quoi? C'est ce qui d'un seul coup prend toute la place. Avant, il y avait la divinité, c'est les choses terrestres. C'est elles qui remplissent tout, toute notre intériorité, nos désirs, nos affaires, etc., notre temps. Tout ça, c'est rempli par les affaires terrestres. Et d'un seul coup, c'est la divinité qui remplit tout ça. Ça a vraiment, ça se fait en un instant, ça a vraiment l'allure d'une transfiguration. Et ce qui est transfiguré, c'est notre quotidien. Alors on a conscience de cette divinité qui est là de toute éternité et qui sera là de toute éternité, tandis que l'histoire du monde sera bien passée depuis très longtemps. On comprend tout de suite ce qui demeure et ce qui passe. Ce qui est consistant et ce qui est aussi inconsistant que le sable. Cette prise de conscience de la divinité s'impose à nous d'une merveille, d'une façon merveilleuse. Et alors on comprend le sens de nos vies. Et parallèlement à ça, la prise de conscience de la divinité, suscite, génère en nous une prise de conscience que nous ne sommes que néant. Nous autres hommes, nous ne sommes que du néant par rapport à cette divinité. Et que toutes les affaires terrestres ne sont que néant elles aussi. On assiste, les médias nous montrent des gens qui consacrent toute leur vie à édifier une œuvre, à imposer un point de vue, que sais-je, à organiser le monde. Et tout cela n'est que néant. Ils ont passé leur vie à courir après du vent. Et ça, ils le découvriront trop tard. Ils s'en vont, comme dit saint Paul, à leur perte. Le carême, c'est pour nous réveiller. Donc, méditons bien cet épisode de la Transfiguration, le moment où le Dieu de notre foi devient lumière. De quoi s'entretiennent les trois personnages, Jésus, Moïse et Élie, du départ de Jésus à Jérusalem. Et c'est la perspective de la passion, bien évidemment, qui est mentionnée ici. Et le sens du carême, c'est de méditer cette rédemption qui nous sauve du péché. Et le péché, c'est de mépriser la croix du Christ. Le péché, c'est de ne pas mettre la loi de Dieu dans notre cœur. Le péché, c'est de vouloir être des dieux, c'est-à-dire tout diriger et tout faire venir à nous, et ne pas se soucier de Dieu. Mais Dieu a un droit que personne ne peut lui retirer, il est notre Créateur. Et ça, personne ne peut, ne pourra, au moment du jugement, le nier. Et malheureusement, eh bien, certains le sentiront mais très douloureusement, cette autorité incontournable. En carême, nous devons également cultiver l'espérance dans les secours divins. Parce que c'est le fruit direct de la contemplation de ces cieux dont nous sommes citoyens. Nous devons, eh bien, espérer entrer dans ce royaume des cieux. Et nous devons espérer que Dieu va nous aider à aller jusque-là. L'espérance, c'est un désir. C'est une prière à elle seule. Et donc, il faut faire croître en nous le désir de Dieu comme condition essentielle et totalement nécessaire à notre bonheur. Voilà une méditation et un travail spirituel du carême. Il faut dépasser l'idée, bien sûr, du bonheur terrestre, de même que le Nouveau Testament, dans ce domaine, eh bien, dépasse l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'espérance, vous savez, ça a été écrit sur un millénaire, donc les textes ne sont pas du tout contemporains les uns avec les autres, quelques-uns, mais pas tous. Ils ont été écrits à différentes périodes de l'histoire. Et la sensibilité religieuse et la spiritualité qui passe à travers ces écrits, eh bien, on la voit évoluer très lentement. Elle s'intériorise, elle se spiritualise peu à peu, mais avec quelle lenteur ? C'est seulement à l'approche de l'ère chrétienne que les auteurs bibliques commencent à se demander s'il n'y a pas un dépassement de la Géhenne, s'il n'y a pas un dépassement du Shéol, s'il n'y a pas un salut dans l'autre monde qui justifie, eh bien, le sacrifice dans le temps présent. Ça a été très long, tout ça. L'espérance, dans l'Ancien Testament, ça consiste essentiellement au secours divin, mais pendant cette vie terrestre et sous forme de biens matériels, sous forme de secours dans des voies sans issue ou dangereuses, la santé pour le corps, etc., pour continuer à être fidèle à Dieu. Mais ce n'est pas le royaume des cieux qui est la grande espérance de l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament qui nous a donné cette espérance-là. C'est cette espérance que nous devons vraiment méditer pendant le carême. Nous sommes citoyens des cieux. Enfin, il y a cette parole qui sort de la nuée c'est l'Esprit Saint, celui qui parle c'est le Père, il est mon Fils, écoutez-le. Donc, on peut, par exemple, pendant ce carême, relire intégralement les évangiles. Ils nous mettent en présence de Jésus, les évangiles. Mais réellement, ils nous mettent en présence. Et ce Dieu de la foi, de notre foi, pourrait bien devenir un Dieu de lumière au fil de la lecture. Donc il faut se tenir en la présence du Christ, voilà notre beau programme. Et alors, on va être comme les disciples, on sera accablé de sommeil, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de distractions, on aura beaucoup de tentations de penser à autre chose, de faire autre chose. Mais si nous restons éveillés, si nous combattons héroïquement comme l'ont fait les trois disciples là pour ne pas s'endormir, eh bien, nous verrons cette lumière qui vient des cieux et qui fait briller notre espérance.